RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Guadeloupe. La banane des Antilles françaises tente de faire oublier la tache du chlordécone, ce pesticide abandonné depuis 20 ans mais qui a empoisonné les sols pour des siècles. Alors pratique plus écologique, mise au point d'une variété bio, le deuxième plan banane durable soutient cette mue de la filière. Comment la banane fait peau neuve en Guadeloupe? Un grand reportage signé Claire Fage.
On a eu tout le soleil avant carême, et là le carême a commencé, on a de la pluie.
Ce qui est anormal.
Anormal, oui. Non mais en 900 là, ou pas qu'elle bouge tout de suite.
Ah ok. Charles-Henri Adolphe est un jeune planteur de bananes à Capesterre-Belle-Eau, dans l'ouest de la Guadeloupe. L'humidité est inhabituelle sur l'île antillaise, d'où la recrudescence de la cercosporiose, un champignon qui flétrit les feuilles et empêche la croissance des bananes. Pourtant, pas question d'arroser les champs de pesticides comme autrefois. C'est un effeuillage manuel que pratique Charles-Henri Adolphe et il est de plus en plus contraignant.
Aller voir le travail. La maladie va de plus en plus vite. Il y a une aggravation de la cercosporiose, mais vraiment très très forte. Avant, la maladie prenait un mois pour pouvoir évoluer, pour qu'on ait des feuilles nécrosées. Aujourd'hui, vous passez feuillet juste ici où on est aujourd'hui. Lundi prochain, vous avez des feuilles nécrosées. Donc on est obligé de passer toutes les semaines maintenant. En fait, on effile la feuille juste pour. On fait de l'effeuillage chirurgical en fait. Donc on retire juste les parties nécrosées, ce qui nous permet d'étendre un peu nos traitements. On ne peut pas dire qu'on est à 0% herbicide quand même. Pour l'instant, non, j'ai réussi à réduire de 60%, mais pas encore de 100%.
Donc là, on va sur une autre parcelle. Hein.
Oui, on va aller continuer à voir un peu la récolte. Et ensuite, on ira voir les jachères, et, enfin les pentes de service et pentes de couverture. C'est bien de pouvoir faire de grandes jachères parce que ça permet déjà que les nématodes, donc les nuisibles, les nématodes, va mourir puisqu'il n'aura plus de bananiers pour se nourrir. Et on a aussi les charançons. Quand vous mettez une jachère, vous faites une jachère pendant 12 mois, on dit qu'après 12 mois, ils ne peuvent plus résister. Donc là, soit ils s'en vont autre part, soit ils meurent. Soit ils sont coincés dans les pièges à charançons qu'on met justement pendant les jachères.
C'est contre les charançons qu'on a utilisé le chlordécone pendant des années.
Oui. C'est pas, mais ça fait maintenant 10 ans. Bon, je sais qu'il y a des gens qui en parlent toujours, mais on fait de gros efforts pour pouvoir arrêter cette propagande. Et d'ailleurs, on a beaucoup de plantes de couverture aussi en bordure, ce qui permet justement d'éviter trop de lessivage et justement que les terres qui ont le chlordécone ne soient pas lessivées dans les cours d'eau.
La chlordécone, c'est ce pesticide utilisé des années 70 aux années 90. Très efficace contre le charançon, il a aussi empoisonné les sols et les cours d'eau des régions bananières des Antilles pour des siècles, avec des conséquences sur la santé de la population, comme le constate tous les jours le professeur Pascal Blanchet, urologue au CHU de Pointe-à-Pitre.
La maladie la plus emblématique de la Guadeloupe et de la Martinique, c'est le cancer de la prostate. Il y est deux fois plus fréquent que partout ailleurs en France. Donc cette maladie que chaque famille connaît à travers un de ses membres a fait l'objet d'un grand travail pour vérifier si le chlordécone pouvait être un facteur supplémentaire de risque de survenue de cette maladie.
Et alors la conclusion, quelle est-elle?
La conclusion scientifique a été que oui, le chlordécone augmente le risque de survenue de la maladie. Il double le risque de survenue de la maladie à partir d'une certaine valeur dans le sang.
Il faut rappeler c'est que ce n'est pas en consommant des bananes que les gens ont été exposés à ce chlordécone, n'est-ce pas?
Absolument. Le chlordécone ne regagne jamais la banane, donc la banane est tout à fait indemne de pollution. C'est dans le sol que le chlordécone rentre. Il a la particularité physique d'y résister pendant très 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 longtemps. Et donc les sols sont contaminés. À travers les sols, beaucoup de légumes racines. Donc c'est la base de l'alimentation. C'est une alimentation qui est protectrice avec des index glycémiques qui sont bas. Et dont les bienfaits sont reconnus. Et il y a bien sûr la pollution qui se met en balance, mais il serait dommage que la population se détourne d'une alimentation traditionnelle qui a fait ses preuves pour protéger leur santé.
Là, on entend le train de la pluie, voilà. On appelle ça le train de la pluie. Vous avez vu, on l'a entendu arriver. On va le laisser passer. Bon, pardon, c'est un peu mouillé. On va se mettre à l'abri au cas où. Ça va? Ouais. Bon, tu crois qu'il fera beau cet après-midi?
C'est à l'Institut national de la recherche agronomique, niché à Petit-Bourg, en plein cœur de la Basse-Terre de Guadeloupe, que Régis Tournebise imagine des solutions ingénieuses pour isoler les ignames de la pollution à la chlordécone.
En Guadeloupe, on a quand même 5000 hectares qui sont concernés par des teneurs en chlordécone, qui interdisent notamment la production de tout ce qui est tubercule. Donc patates douces, madère, igname, cive également. Tout ce qui est en contact avec le sol, malheureusement, se pollue rapidement.
Or, c'est la base de l'alimentation ici.
Voilà, c'est aussi la base des jardins, c'est la base de toute l'agriculture familiale. Donc c'est vrai qu'il faut proposer aux gens des techniques alternatives. Donc là, nous, il y a cet apport de matière organique. Il y a le fait aussi, on a essayé de développer ce qu'on appelle une culture en tube. On a des variétés d'igname qui sont assez longiformes et qu'on essaye de cultiver sur un tube en PVC, un tube en plastique. Et du coup, l'igname n'est pas en contact avec le sol. Donc, on a des racines qui vont pouvoir alimenter l'igname, mais le tubercule lui-même n'est pas en contact avec le sol chlordéconé, le sol pollué, et du coup on a une absorption de la chlordécone qui est beaucoup plus faible. Et là aussi on arrive à avoir des teneurs qui sont acceptables par rapport à la chlordécone dans ces tubercules.
C'est très ingénieux, c'est simple en même temps, c'est pas onéreux.
Non, ben voilà, c'est des choses qui peuvent se conserver d'une année sur l'autre. Donc une fois qu'on a fait l'investissement en gouttière, on peut les garder, on imagine, 10 ans, 20 ans. Quoi. Parce qu'en plus, elles sont dans le sol, donc elles ne subissent pas de rayonnement et elles se conservent très bien.
Donc, expérimentation en conditions réelles chez 7 agriculteurs cette année.
On commence cette année, voilà, auprès de quelques agriculteurs pour voir si le temps passé, cette nouvelle technique peut être appropriable par la plupart d'entre eux. Et après, si ça va, on diffusera cette technique à un plus grand nombre en facilitant l'obtention de ces variétés adaptées.
Et vous, que savez-vous de la chlordécone?
Si un terrain est contaminé, est-il quand même possible de cultiver des racines à l'abri de la chlordécone?
Qui j'en pour faire racine sans y attraper chlordécone?
Avec chlordécone, pi ou connaît, pi ou protégé. C'était message à programme Jaffa qui fête en Lyonnage et puis l'ARS et l'IREPS Guadeloupe. Pour n'y plus renseignements, ASIJaffa.gp.
La prévention s'organise pour sécuriser la culture dans les jardins familiaux. C'est le programme Jaffa. La banane, elle, comme les fruits aériens, n'a jamais été et ne sera jamais contaminée par le chlordécone. Mais après le scandale qui explose au milieu des années 2000, la filière banane antillaise doit redorer ou plutôt reverdir son image. C'est le plan banane durable financé par l'Union européenne en 2008 et reconduit en 2014. En Guadeloupe, il est piloté par Marcus Herry. Nous avons rendez-vous à la station d'empotage, dernière étape de la banane avant le bateau.
Non. Les producteurs arrivent ici en fait avec leur petit véhicule, et les cartons, et ils font leur palette, et après ils mettent en conteneur.
Et voilà. Vous allez vérifier le contenu de ces conteneurs.
Alors, il y a des contrôles qui se font soit ici ou sous exploitation en fait.
La qualité déterminera le label et la note du producteur. Le contrôle des produits phytosanitaires est centralisé.
Le contrôle des pesticides, alors là on était tout à l'heure, donc on a vu que c'était la centrale d'achat. C'est là où les producteurs se fournissent en intrants. On a, nous, la surface de chaque producteur, les doses réglementaires pour les phytos. Donc, les pesticides qui sont les plus contrôlés, ce sont les fongicides, notamment. utilisé contre la cercosporiose. Et là, c'est nous qui pilotons, on ne délivre que en fonction des détections qui ont été faites par les collègues sur le terrain et sans dépasser ce qui est prévu en termes de nombre de traitements, en fait. On a certains herbicides où il y a aussi des maximums à utiliser, ça on les contrôle. On a réduit de plus de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires sur le plan banane durable 1, donc sur les 10 dernières années. Et le plan banane durable 2, c'est continuer à réduire de 25% l'utilisation des produits phytosanitaires. L'autre axe fort, on va substituer des engrais chimiques par des engrais organiques. Là, il y a un objectif qui est affiché sur ce plan banane durable 2, de substituer au moins 15%. Il y avait déjà pas mal de recherches faites par le CIRAD qui montraient déjà qu'on pouvait produire différemment. Donc l'UGP Ban a aussi impulsé tout ça en se disant, les gars, là maintenant, c'est plus possible de produire comme on le faisait avant.
Plan banane durable, l'Institut technique tropicale ou IT2 teste les nouvelles pratiques. Jacques Louisor y expérimente même une nouvelle variété de banane complètement bio et résistante au fléau de la cercosporiose, la 925 découverte par le CIRAD.
Avec le CIRAD, on s'est donné 3 ans pour obtenir une itinéraire technique bio, c'est la 925. 925, c'est le 9 de 9 châteaux. Donc c'est pour rappeler que ça a été créé à Neufchâteau au CIRAD. Et c'est la 25e variété qui a été créée à l'époque, simplement. On est loin du tonnage de la Cavendish, mais elle est en retour de cycle rapide, donc on pourrait rattraper le tonnage de la Cavendish, sauf qu'elle coûte plus cher, puisque c'est 2 cycles en plus, donc c'est plus de travail à fournir dans l'année. Après, c'est vrai qu'on peut, donc sur 5 ans, on arrive à lisser la partie économique de la 925 et à retomber sous des coûts équivalents à la Cavendish. Donc on est encore en phase de calage justement pour réduire les coûts sur cette variété parce que c'est une variété qui est plus haute, donc demander plus de temps par exemple pour faire l'habillage des régimes par rapport à la Cavendish.
Elle pousse plus haut.
Voilà, donc c'est une variété, elle pousse à 4 mètres en moyenne, alors qu'à la Cavendish on a 2,70 m, 3 mètres. Donc tout ça rajoute des coûts. Donc c'est vrai qu'on joue sur le fait qu'il n'y a pas de traitement aérien, qu'il n'y a pas de traitement au sol, qu'il n'y a pas d'herbicide.
Et vous allez la valoriser mieux à l'arrivée?
Voilà, on pourra mieux la valoriser, d'autant plus qu'on a déjà pas mal calé son itinéraire technique post-récolte. Progressivement, on y arrive. C'est vrai que ça prend du temps. Il faut savoir que quand on crée une variété, c'est au bout de 20 ans qu'on aboutit à la vulgariser. Le dernier point, c'est un problème de brunissement. Donc c'est une banane qui brunissait facilement au mûrissage, donc au toucher, quand le consommateur touche la banane à l'état, c'est une banane qui était sensible, donc on voyait les empreintes apparaître. Tout simplement à cause d'un problème d'humidité dans les grandes surfaces et d'atmosphère un peu trop sèche à cause des climatisations. Et là aussi, on a compris qu'il fallait un peu plus d'humidité autour des fruits, donc on a adapté, on a trouvé un sachet d'emballage qui permet au consommateur d'acheter son fruit dans un bon état et d'avoir une bonne humidité autour du fruit. Donc ça aussi, c'est des process qu'on a calés et qui sont encore en cours d'affinage avant de passer à une étape commerciale pour cette variété. C'est la 925.
La nouvelle banane hybride.
Voilà, c'est une nouvelle banane hybride.
Donc, très vous voyez, bien, donc elle est un petit peu plus petite.
Voilà, un peu plus petite. Et vous voyez que c'est pas le même aspect, quoi. En plus, avec un apex pointu. Donc, elle est vraiment différente de la Cavendish.
Un apex, c'est l'extrémité.
Voilà, c'est l'extrémité de la banane qui est pointue.
Alors, est-ce qu'on peut la goûter?
Oui, on peut la goûter. Donc, elle a mûri naturellement.
Elle est onctueuse. J'aime beaucoup la consistance. Et il y a une longueur en bouche de la banane. Comme le vin.
Ouais.
Elle a un arrière-goût très intéressant. Elle a un petit goût de fraise.
Waouh. C'est pas mal tout ce que vous avez trouvé. C'est bien.
Donc
on peut la trouver aussi un peu acidulée, voilà, comme une pomme.
Donc ça, c'est la banane bio qui arrivera en Europe un jour,
voilà.
Dans 3-4 ans.
Exactement, tout à fait. Et c'est l'objectif aujourd'hui de la filière.
La banane antillaise fait beaucoup d'efforts pour devenir propre. Elle sera bientôt la plus propre du monde, se vante même Francis Linière, président de l'Union des producteurs de bananes de Guadeloupe.
Bonjour monsieur.
Enchanté.
Enchanté. Bienvenue.
Voilà la relève.
Même s'il le reconnaît, elle aura beaucoup de mal à faire oublier la pollution durable des sols antillais.
Pratiquement 90 ou 95% des planteurs vivent sous l'exploitation. Je ne connais aucun planteur qui, par plaisir, ait contaminé son propre sol. Donc nous avons des sols effectivement contaminés, mais avec une production qui est indemne de pesticides, puisque le chlordécone n'est pas véhiculé dans la banane. Cette réputation, effectivement, elle est très lourde. Ça fait déjà plus de 10 ans que nous expliquons d'où nous venons. Nous allons jamais pouvoir totalement effacer cette période, mais je pense qu'avec les évolutions de la production, avec le travail qui a été fait par nos chercheurs, nos techniciens, avec le travail des planteurs, je pense que nous allons prouver que nous avons une banane. Vous n'êtes pas peut-être totalement d'accord avec moi, mais la plus propre du monde, et faire justement oublier les mauvaises périodes que nous avons connues par le passé.
On fait attention à l'eau, on va aller se mettre carrément, tranquillement.
Alors ça, c'est l'eau qui coule justement dans l'entrepôt pour laver les bananes, c'est voilà. Très important. Hein.
Oui, oui.
À la station de lavage, indispensable pour éliminer le latex des fruits qui les ferait pourrir dans les cartons, Francis Linière se réjouit de voir les oiseaux de retour au milieu des bananes.
Les oiseaux qu'ils ont là viennent picorer tout ce qui sort des régimes de bananes. Comme il n'y a plus de traitement du tout dans les bananes, on ne fait plus de traitement depuis des années. On a réduit les pesticides de façon incroyable. Dans les hangars, on a ces oiseaux-là qui arrivent pour se ravitailler. Ils sont là toute la journée. Ils mangent les grenouilles, mais on ne peut rien y faire. Mais ils mangent tous les petits rongeurs, tout ce qui peut traîner dans les régimes de bananes. Donc vous voyez, c'est une marque presque de label, parce qu'on a énormément de choses dans les régimes maintenant, puisqu'on ne traite plus. On va aller là, on va aller l'oiseau là. Ouais, il est en train de sauver. Il a dit quelque chose de propre.
Banane de Guadeloupe fait peau neuve après la pollution au chlordécone. Un reportage de Claire Fage réalisé par Sandrine Straram avec le soutien de l'Union européenne.